Bonjour et bienvenue dans le dernier rendez-vous de l'accent des autres pour cette saison. Et c'est comme chaque semaine avec les médias francophones publics, la radio-télévision suisse, RFI, France Inter, la RTBF et Radio-Canada. On va commencer cette semaine avec les suites de ce nouveau drame de la migration aux portes de l'Europe, Nicolas Sûr.
Oui, cette fois à l'une des seules frontières terrestres de l'Union européenne et de l'Afrique, devant l'enclave espagnole de Melilla, où 23 personnes au moins ont perdu la vie. Les forces de l'ordre marocaines et espagnoles sont pointées du doigt pour un usage excessif de la force.
En Belgique, une nouvelle étape sur le chemin de la réconciliation avec la République démocratique du Congo. Le Parlement fédéral belge vient de voter une loi. Elle encadre la restitution des biens liés au passé colonial de l'État belge, Jacques Cremers.
Oui, et cette loi fait de la Belgique un État pionnier en la matière. Elle a d'ailleurs été votée ce jeudi 30 juin, le jour de l'anniversaire de l'indépendance du Congo.
En Suisse, à présent, on se prépare à une rencontre internationale consacrée à l'Ukraine. Laurent Caspary, ce sera lundi et mardi prochain.
Deux jours entièrement consacrés à la reconstruction de l'Ukraine, c'est le thème de cette conférence qui aura lieu à Lugano, dans la partie italophone du pays. Plus d'un millier de participants sont attendus, mais peu, voire pas de chefs d'État et de gouvernement. L'Ukraine envoie une délégation importante, mais sans l'invité longtemps espéré, le président Volodymyr Zelensky.
Autre rendez-vous et la fin d'un suspense aussi, le pape François se rendra finalement au Canada à la fin du mois, Nadi Moubarak.
Oui, la visite du souverain pontife de 85 ans en sol canadien aura lieu du 24 au 29 juillet.
Enfin, en France, nous reviendrons sur la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015 dans Paris et sa banlieue, Éric Delvaux.
Oui, 10 mois de procès et au final des peines qui vont jusqu'à la perpétuité, la peine la plus lourde donc parmi les 19 condamnés.
Et voilà donc pour le sommaire de l'accent des autres. Au moins 23 migrants clandestins ont donc perdu la vie le week-end dernier dans des violences. Ils tentaient de franchir la clôture qui entoure l'enclave espagnole de Melilla. C'est dans le nord du Maroc, Nicolas.
Oui, le vendredi 24 juin, selon un scénario désormais classique, 2000 migrants clandestins rassemblés dans les forêts qui entourent Melilla se lancent à l'assaut de la haute clôture qui sépare cette enclave espagnole du territoire marocain. Mais cette fois-ci, ils sont armés de pierres et de bâtons. L'assaut est durement repoussé par les forces de l'ordre et le bilan est très lourd. 23 migrants sont tués, tandis que 140 policiers auraient été blessés. Les images de corps jonchant le sol dans des mares de sang provoquent l'indignation, tout comme celle des forces de sécurité marocaines frappant des gens, tandis que la garde civile espagnole tire des gaz lacrymogènes sur des hommes accrochés au grillage.
Et c'est un bilan sans précédent à Melilla, qui est, avec l'enclave de Ceuta, la seule frontière terrestre de l'Union européenne en Afrique.
Oui, l'ONU dénonce un usage excessif de la force des deux côtés de la frontière et réclame une enquête. Pour l'Association marocaine des droits de l'homme, Sy Rabah fait désormais preuve d'intransigeance pour les clandestins qui affluent vers les enclaves espagnoles. C'est en raison de la réconciliation récente avec Madrid. En mars dernier, le gouvernement espagnol a effectué un revirement diplomatique spectaculaire en apportant un soutien appuyé aux revendications marocaines pour le contrôle du Sahara occidental.
Nicolas Sûr pour RFI. En Belgique à présent, après la restitution de la dent de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba, cette nouvelle étape sur le chemin de la réconciliation avec la République démocratique du Congo, le Parlement belge a voté cette semaine une loi qui encadre la restitution des biens liés au passé colonial de l'État belge, Jacques.
Et cette loi, elle a été votée ce jeudi 30 juin, une date symbolique puisqu'elle correspond au jour anniversaire de l'indépendance du Congo en 1960, le jour aussi où était inhumée à Kinshasa la dépouille de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba. Cette loi, elle reconnaît le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l'État belge, c'est-à-dire qu'elle permet que ces biens culturels puissent être transférés d'un propriétaire à un autre. La loi fixe ainsi un cadre juridique pour leur restitution.
Oui, et cette loi, Jacques, elle s'inscrit dans un long travail de réconciliation entre les deux pays.
Oui, souvenez-vous, en février déjà, la Belgique a remis à la RDC un inventaire complet des objets d'art et ethnographiques originaires du Congo, conservés par le Musée de l'Afrique à Tervuren, et c'est guidé par une équipe de chercheurs belgo-congolais que Kinshasa pourra formuler des demandes de restitution, reconstituer son patrimoine, grâce notamment à cette loi qualifiée de pionnière par le gouvernement. Plus récemment, dans le cadre de la visite que vient d'effectuer le roi Philippe en RDC, un masque rare a été prêté au Congo. Grâce à cette loi, il pourra en devenir le Congo la propriété pour toujours.
Alors sur ce chemin du pardon et de la mémoire, un autre acte symbolique a été posé ce jeudi à Bruxelles. Jacques, le buste d'un général à l'époque du roi Léopold II a été enlevé.
La commune d'Ixelles a en effet estimé qu'il était temps de retirer la statue du général Émile Storms qui a participé à la colonisation du Congo. Elle se trouvait, cette statue, dans un petit parc de la commune d'Ixelles. Baldé Alioué, membre d'un collectif Mémoire coloniale, il se dit satisfait de cette décision.
C'était absolument nécessaire pour la raison simple que le général Storms a commis une série de crimes très bien documenté, très bien connu. C'est un acte assez important qui a été posé aujourd'hui.
Le buste a été provisoirement stocké dans un entrepôt. Il pourrait être prochainement exposé et contextualisé dans un musée.
L'accent des autres en Belgique avec Jacques Crémers.
L'accent des autres.
Les préparatifs vont bon train en Suisse. Laurent, la Suisse qui se prépare à accueillir début de semaine prochaine une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine.
C'est dans le cadre enchanteur de la ville de Lugano, ses palmiers et son lac que va se tenir en effet lundi et mardi prochain cette conférence voulue par la Suisse et l'Ukraine. Objectif, rassembler un maximum de décideurs pour entamer un processus de reconstruction de l'Ukraine, même si les combats font toujours rage dans le Donbass.
Et la reconstruction d'un pays comme l'Ukraine, on imagine que ça représente un marché et une entreprise hors du commun.
600 milliards de francs ou d'euros, c'est la somme estimée des coûts de reconstruction du pays. Alors réunir des fonds, c'est déjà un défi colossal et bien les utiliser sera également un défi tout aussi important. Certains craignent qu'une partie de cet argent soit au final accaparée par la corruption qui règne encore en Ukraine. Alors des risques de corruption et une guerre encore en cours, n'est-ce pas trop tôt pour lancer une telle conférence? Écoutez la réponse du président suisse Ignacio Cassis.
Le gouvernement ukrainien estime que c'est non seulement le bon moment, mais ce n'est jamais assez tôt de commencer à parler de la reconstruction. Et nous sommes pleinement d'accord. En parlant avec le président Zelensky, il nous a été clair en avril que, indépendamment du fait qu'en juillet la guerre pouvait être finie ou pas, il fallait penser au prochain chapitre. Ceci pour deux ou trois raisons. La première, pour donner de l'espoir à la population en guerre. On sait que le jour où les armes, le feu cesse, voilà, il y a un plan. Deuxièmement, le fait d'avoir un plan de reconstruction motive énormément les citoyens à s'engager pour terminer le plus tôt possible la guerre.
Le président suisse affiche donc son optimisme, mais c'est mardi soir qu'on pourra vraiment tirer le bilan de cette conférence sur la reconstruction. À ce stade, aucun chef d'État étranger ne se déplace, des ministres par contre, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait s'exprimer via vidéoconférence depuis Kiev.
Autre rendez-vous à la fin du mois, cette fois, le Vatican a confirmé la visite du pape au Canada, Nadi, malgré ses problèmes de santé.
Voilà, la visite du souverain pontife était incertaine depuis des semaines. Le chef de l'Église catholique souffre de douleurs à un genou qui l'ont forcé à annuler un voyage en Afrique au mois de juillet. La visite du pape François va durer 6 jours et sera chargée. Elle commencera à Edmonton, en Alberta, pour se terminer à Iqaluit, au Nunavut, après quelques jours à Québec.
Et cette visite, il faut le souligner, Nadi, est très attendue par les Premières Nations, les Métis et les Inuits.
Oui, puisque cette visite va se faire sous le thème de la réconciliation. Le pape devrait profiter de son séjour pour renouveler ses excuses prononcées au Vatican pour le rôle de l'Église catholique dans la gestion des pensionnats pour autochtones. Le spécialiste des questions religieuses, Alain Pronkin, rappelle à quel point ce voyage est important pour le pape.
Il s'agit d'une cause très importante où il va s'excuser pour ce qui a été commis et ça lui tient à cœur.
Effet à noter, l'itinéraire du Vatican ne mentionne pas quand et sous quelle forme le pape présentera ses excuses très attendues.
Alors, dernière question, on a dit quel est le programme de cette visite?
Alors, le pape aura une série de rencontres privées avec des membres des peuples autochtones. Il va participer aussi à quelques événements publics dans des lieux symboliques. Le souverain pontife va se rendre, par exemple, sur le terrain d'un ancien pensionnat en territoire Cree, en Alberta, et y tiendra un discours. Célina Yellowbird, une femme Cree de la Première Nation d'Alexander, sera présente à ce discours.
Surtout, je vais aller le voir parce que c'est pour ma grand-mère, pour mes oncles et mes tantes qui ne sont plus là à cause des écoles résidentielles. Ils sont tous morts à cause de ce traumatisme, à cause de l'alcool, les drogues. Je pourrais dire à mes enfants que oui, j'étais là pendant ce moment historique.
Ce sera la quatrième visite d'un pape au Canada.
Rendez-vous donc à la fin de ce mois. Enfin, le verdict est tombé à Paris cette semaine après 10 mois de procès aux assises spéciales. Verdict pour la vingtaine d'accusés liés aux attentats du 13 novembre 2015. 130 morts dans les attaques du Stade de France, des terrasses de café et de la salle de spectacle du Bataclan. Les peines prononcées ce jeudi vont de 2 ans à la perpétuité. Voici, après ce verdict, le témoignage de soulagement de l'une des victimes de ces attentats. Vincent se trouvait au comptoir Voltaire à Paris quand Brahim Abdeslam a déclenché sa ceinture explosive.
Pour les peines, je fais plutôt confiance en fait. Je pense que c'est quelque chose d'assez technique et moi je découvre le monde de la justice là en 10 mois, donc en fait, vraiment, là, c'est la justice qui fait son travail. S'ils ont estimé qu'il fallait donner ces peines-là, c'est ce qu'il fallait. Ce que j'attendais surtout, c'était d'entendre le mot « on vous reconnaît coupable » pour l'ensemble des accusés. Et je l'ai entendu. C'était un moment important, c'est le moment où la justice se fait. C'est pas une vengeance, vraiment pas du tout. C'est un retour à l'équilibre des choses. Je suis venu à peu près une ou deux fois par semaine en fonction des sujets. Et c'est un procès qui a été très long, voire trop long. Et donc c'était très difficile de gérer profession et ça, donc il y a une certaine liberté. Par contre, là, je sais que toute la chaîne d'humanité qui s'est créée entre les parties civiles, j'ai peur que ça manque terriblement l'année prochaine.
Des propos recueillis par France Inter à la fin donc de ce procès des attentats de novembre 2015. Le procès des attentats de Bruxelles débutera, lui, à la mi-septembre. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous de ce dernier numéro de l'Accent des Autres, dernier numéro de la saison. Je vous souhaite un excellent été en compagnie des médias francophones publics, Radio-Canada, la radio-télévision suisse, RFI, France Inter et la RTBF. Et rendez-vous, si vous le souhaitez, à la rentrée.